Samouraï, les Nantais ont des choses à écrire sur Jet FM 91.2.
Du haut de mes 15 ans, en essayant de coucher les signes annonciateurs de ma transidentité sur papier, j'écris que je m'en fiche un peu d'être une fille ou un garçon, que le problème n'est pas là tant que j'ai mal. J'ai raison, même si je ne sais pas encore pourquoi. J'ai déjà compris ce que Lorraine Marx improvise sur scène quelques années plus tard. On n'est pas né dans le mauvais corps, on est né dans le mauvais esprit, et cet esprit, c'est le vôtre. Du haut de mes 15 ans, comme du haut de mes 14 et de mes 13 ans avant ça, j'essaie déjà tant bien que mal d'avaler et de digérer qu'être trans ne va pas vraiment être à propos de mon genre, mais de tout le reste. Pas encore sorti du collège, je comprends au fond de moi que si être trans, c'est reconstruire, il va forcément falloir que tout vole en éclats à un moment donné. Je vois déjà les prémices du rejet et des douleurs, et j'essaie de limiter les dégâts pour mon corps et pour mon esprit. Je laisse la dysphorie me ronger et me vider, comme une pomme pourrie, le temps de me préparer à la suite qui, je le sais, n'en finira pas, quoi que cela veuille dire. Je me souviens de la lucidité effrayante qui s'est emparée de moi cet été-là, qui fut le coup de grâce m'exilant à des années-lumière du reste du monde. Je me souviens de la sensation floue et douloureuse face au vide qui m'habitait. Je me souviens d'avoir pleuré quelque chose que je ne comprenais pas. De la nécessité de faire un deuil étouffant. Je me souviens m'être dit, enragé, qu'à ce moment précis, je n'étais que les miettes de mon enfance.
Aujourd'hui pour la première fois et pour parler de ton premier livre, L'année du garçon, qui se présente comme un recueil de textes et dans lesquels tu livres tes réflexions, tes questions, tes émotions qui te traversent durant une année alors que tu viens de quitter le domicile familial.
C'est voilà. Bien ça.
Donc c'est ton histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme de 19 ans qui explore sa transidentité, ses relations d'amitié, ses relations d'amour. C'est l'histoire d'un jeune qui se construit, qui se déconstruit aussi. C'est un texte puissant d'une très grande beauté et d'une grande lucidité aussi. Alors est-ce que tu pourrais, tout d'abord, on en reparlera hein, de cette grande beauté, de cette poésie, de cette clairvoyance qui est assez frappante pour ton jeune âge hein, sans vouloir me vieillir, évidemment. Mais est-ce que tu pourrais nous dire, dans un premier temps, comment tu t'y es pris et à quel moment tu as décidé de compiler ces textes et à quel moment et pourquoi tu as décidé de les publier ?
Il n'y a pas vraiment eu de moment précis où je me suis dit, là, il faut que je sois édité. Mais sur ma première année post-bac, l'année dont je parle dans le bouquin, en fait, j'ai rencontré pas mal de gens qui écrivaient et qui avaient... avait comme ambition de se faire publier et ça m'a un peu éveillée à cette possibilité là parce qu'avant j'écrivais beaucoup et ça me venait assez naturellement mais j'avais pas été entourée de gens qui validaient chez moi l'idée que ce soit quelque chose de professionnel et que ça puisse être quelque chose de ouais de professionnel pour lequel je puisse être rémunérée, que je puisse mettre dans le monde vraiment et du coup donc j'ai été entourée de gens qui étaient publiés ou essayaient de se faire publier et à ce moment-là j'écrivais beaucoup, c'est vraiment un moment où les premiers textes du bouquin, donc c'est vraiment une période où j'ai recommencé à écrire et du coup à peu près un an et demi après ces premiers textes-là, donc quand l'année du livre est close en fait, je me suis vraiment mis à compiler, à me dire que j'allais sérieusement... chercher des maisons d'édition à qui envoyer les textes.
Alors cette histoire et ce recueil, il commence par un cri comme celui qu'on pousse à la naissance, mais en l'occurrence c'est celui que tu pousses pour ta renaissance et on est frappé tout de suite par l'absolue nécessité d'exister. Tu écris « Je vais arracher cette deuxième naissance des bras de l'État, de la médecine et de ma famille ». Alors est-ce que justement ce texte et cette absolue nécessité, elle est ou elle est criante en toi depuis toujours ?
Je pense pas depuis toujours. Je pense que justement, si elle a été aussi criante, c'est parce que pendant longtemps, elle n'était pas possible, ou qu'elle était éteinte, qu'elle était en veille. Et du coup, si elle est aussi en prenante dans les textes, mais comme dans ma vie à ce moment-là, c'est parce qu'elle est un peu arrivée d'un coup en pétaradant parce qu'elle n'avait pas pu être là avant, en fait. donc, cette sorte de formulation, elle est née de ce moment où d'un coup j'ai fait « Oh waouh, ok, je suis en vie, il faut que j'aille plus loin.
» Ouais.
Ouais, donc ça a été plutôt d'un coup, même si voilà, j'ai toujours eu un peu... je pense que j'ai toujours eu la niaque de vivre, mais ça ne s'est pas manifesté juste avant ma vingtaine, en fait.
Et donc, justement, pour faire éclater, en fait, cette existence, après ce cri-là, ou plutôt avant ce cri, tu fais état un petit peu dans ton livre de ce qui est, de ce qui a été, des maladresses parfois, pour les laisser tranquillement derrière toi, sans pour autant les faire disparaître. Alors, ça peut être un lieu que tu évoques, ton lycée, par exemple, ta maison. Et ce sont aussi parfois... un petit peu des plaies laissées, comme je disais tout à l'heure, par des maladresses ou même bien plus que ça, parfois. Tu écris « Il y a des choses qu'on ne dévoile pas au monde parce qu'il ne peut tout simplement pas les comprendre. » Tu évoques aussi les petits cailloux comme ça qu'on garde dans ses mains. Alors, est-ce que toutes ces blessures enfouies, il est quand même important pour toi de t'en souvenir, quoi, de les garder.
Je pense que mon rapport à ces blessures-là et aux blessures en général est très changeant. Dans le sens où quand j'ai... Enfin, ça fait toujours beaucoup de sens pour moi d'entendre ça. Mais je pense que c'était quelque chose qui était vraiment très pertinent pour moi à ce moment-là. Et je pense que ce qui est intéressant dans mon rapport à ces petites blessures ou à ces petits cailloux ou à tout ce que les deux peuvent faire ensemble, c'est que ça n'arrête pas de changer. J'ai l'impression que depuis que j'ai écrit ce texte, j'ai appris beaucoup de la deuxième chance et du pardon, chose que je ne pouvais pas entendre à ce moment-là. Et c'était normal, j'avais besoin d'être en colère et c'était très bien, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de choses à dire sur les questions de réparation maintenant.
Et puis tous ces souvenirs, toutes ces blessures, tu décides à un moment qu'il est temps de les enfermer délicatement dans une petite boîte et pour les disposer autour de toi. Avec d'autres objets aussi qui symbolisent ton passé. Alors ce passage de ton livre nous fait vraiment penser à une cérémonie rituelle, une sorte de rite initiatique qui acterait avec fierté ta transition. Est-ce que c'était important pour toi justement d'acter un moment par un point de bascule, quoi, ce changement d'une existence à une autre?
Bah, c'était très important à ce moment-là parce que... j'ai réalisé que j'étais trans quand j'avais 13-14 ans et j'ai dû attendre mes 18 ans pour acter une transition physique et sociale, même si j'ai un peu acté une transition sociale entre-temps, c'était jamais vraiment officiel. Du coup, quand est venu le moment où j'ai pu légalement le faire, c'était important qu'il y ait un point de bascule nettement marqué. Mais en même temps, s'il y a tout ce truc du rituel, tout ce truc de la petite boîte, c'est parce qu'il y avait tellement cette peur autour de moi de... passer de tout, du tout au tout, et d'avoir un break net avec la personne que j'étais avant, qu'en fait, très vite, c'est devenu nécessaire pour moi de acter le fait que ce n'était vraiment qu'une fine mue de ma personne, mais que tout ce que je faisais de radical et soulageant mais violent aussi à ce moment-là, c'était... la pure continuation de la petite fille que j'avais été et de l'adolescente que j'avais été. Et du coup, j'ai un peu jonglé avec ce break qui est nécessaire en transitionnant, qui est de dire « Ok, là, il faut acter un truc d'un coup. » Et en même temps, de me dire « Je dispose toute cette petite pièce autour de moi parce que ça acte le fait que c'est une métamorphose et pas un départ. »
Ouais, c'est ça. Et donc, au fil de ce recueil de textes, au fil de cette année, on sent monter en toi comme une certaine forme d'apaisement qui t'envelopperait, qui se diffuserait comme une réconciliation, puisque tu parlais de réparation tout à l'heure, et qui prendrait la forme parfois d'une déclaration d'amour. Alors, une déclaration d'amour à l'enfant que tu étais. Tu dis « J'ai longtemps cru que j'avais tué l'enfant en moi à coups de couteau et je me blâmais sans pitié, je me détestais d'être responsable de sa mort à elle. Avec les années, je crois que ni le monde, ni mes parents, Ni lui, ni moi, ni qui que ce soit n'ont tué l'enfant en moi. Elle n'est pas morte, c'est juste le temps qui passe. Et je crois que malgré les années, je ris toujours de la même façon, avec les dents. Il est magnifique ce passage.
Merci beaucoup. C'est un des moments quand je l'ai écrit et que j'ai fini de le corriger et que vraiment j'étais devant le texte, je me suis dit « Ok, lui, il marche ». Ouais. Globalement, j'étais assez confiant, mais c'était quand même un premier essai d'envoi aux maisons d'édition. Mais alors ce passage-là, quand je l'ai bouclé, je me suis dit « Oui ». S'il y a quelque chose qui fonctionne dans ce bouquin, c'est peut-être celui-là.
Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. C'est vrai qu'il y a que des phrases d'anthologie.
Merci beaucoup.
Mais il faut bien en choisir quelques-uns. Et celui-ci est quand même particulièrement touchant. Alors, il y a aussi une réconciliation avec ton corps. Il est beaucoup question aussi de ton rapport au corps et de la violence de vos rapports parfois. Hein, tu écris « On cohabite avec amour et haine, et tendresse et désespoir. On se détruit, on se griffe mutuellement, on rend toujours le coup deux fois plus fort. Et je crois que c'est mon seul ami, mon seul amour, et qu'il mérite toute la douceur du monde. Et je crois que les coups de bistouri ne seront que tendresse pour lui. Il saura différencier les coupures. Il comprend déjà, il me regarde dans le miroir et il me dit « Je comprends les piqûres et les bistouris. Je sais, c'est moi qui te le demande depuis le début. » Mais je pense que je m'excuserai quand même une dernière fois avant de m'endormir, juste pour qu'il sache. Alors est-ce que, parce que tu en parles beaucoup quand même de ton rapport au corps et de la médecine que ça a dû, que ça a imposé de transitionner, et puis cet éveil en toi de la masculinité, tu en parles aussi de cette forme de virilité exceptionnelle, extraordinaire, que tu décris être la plus belle pour toi. Est-ce que c'était pour toi une... Est-ce que là, c'est comme une sorte de témoignage de lever le voile un peu pour ce qui semble très mystérieux pour certaines personnes, ou pas du tout, c'était juste pour toi important d'en parler et de coucher ça sur le papier?
Je pense que c'est... quand on est trans et qu'on écrit un truc ou qu'on fait un truc qui va être amené à être disponible au public, c'est un peu inévitable, je pense, de réfléchir à la représentation qu'on donne, aux infos qu'on donne, à ce qui va être une découverte pour les lecteurs. Et y a toujours un aspect de est-ce que ça, il faut que j'en parle ou pas. Pas forcément dans le sens... est-ce qu'il faut que j'en parle pour pas me mettre en danger, mais dans le sens est-ce qu'il faut que j'en parle ou est-ce que ça reste à nous. Mais ça, je pense que même si c'est quelque chose qui a été très présent sur les corrections, au moment où je l'ai écrit, c'était vraiment quelque chose de très intime, de très personnel. Et peut-être sur le texte où je parle de masculinité trans, il y avait cette idée de parler de masculinité qui ne voit pas énormément le jour dans la société. Mais surtout les textes où je parle de mon rapport à mon corps, il y avait quelque chose de profondément journal intime là-dedans. Et une nécessité de mettre sur la page quelque chose qui était majoritairement vécu à travers du ressenti qui était jusqu'à ce moment-là peu formulé en fait. Du coup, il y avait vraiment une volonté de retranscrire de l'émotion pure sur papier en fait.
Puisque tu parles d'intimité, c'est vrai qu'il est aussi... Il est aussi beaucoup question de santé mentale. Tu abordes avec beaucoup de lucidité toutes les blessures intimes, les souvenirs traumatiques aussi. Et tu parles en toute franchise de tes troubles, des troubles psy que tu as traversés, de la dysphorie aux troubles de la personnalité borderline. Alors moi, j'ai découvert ce terme de dysphorie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que la dysphorie et, parce qu'on parle de dysphorie de genre, mais pas seulement.
J'ai pas la définition médicale exacte. Sur la dysphorie de genre, je l'ai du coup, parce que je suis bien obligée de le connaître à force. Sur la dysphorie de genre, c'est le terme médical qui est utilisé pour parler de transidentité. Donc, c'est l'impression d'inadéquation entre le corps et le ressenti du genre. Mais le terme dysphorie globale, si je me souviens bien, et en tout cas moi ce que j'en retiens, c'est qu'il parle beaucoup d'inadéquation tout court, que ça
tout
parle
court.
De genre ou pas en fait.
Oui, et pas seulement d'ailleurs par rapport au corps, hein, d'inadéquation par rapport à une situation et des émotions vécues quoi.
Je crois que le mot dysphorie est utilisé dans le vocabulaire du trouble psy et de la santé mentale sur plein d'autres sujets que la transidentité, et ça parle de décalage et de souffrance liée au décalage globalement. Et moi, clairement, quand je parle de dysphorie dans le bouquin, je parle de dysphorie de genre, mais en fait, pas que. Parce que sur d'autres sujets que mon rapport à mon corps, que mon rapport à mon genre, la dysphorie, comme concept, ça a été un gros truc pendant mon adolescence.
Oui,
et
comme beaucoup d'adolescents.
Comme beaucoup d'adolescents. Et c'est là aussi où ce mot ne parle pas que de transidentité, parce que je pense que l'adolescence est une forme de dysphorie.
Oui.
Enfin, genre, juste, il faut passer par cette inadéquation,
oui.
qu'on soit trans ou cis. Enfin, voilà, genre, c'est.
Est-ce que là aussi, il y a une volonté de rassurer certaines personnes ou de témoigner pour éventuellement toucher certaines personnes qui auraient pu traverser les mêmes épreuves ?
Je pense que il y a cette volonté-là, mais pareil, elle est venue après. Vu que j'ai pas écrit ces textes en ayant en tête la publication concrète d'un livre. Il y en a beaucoup, vraiment une grande majorité, qui ont été écrits à une période où c'était pour moi ou pour mes amis ou pour mon petit compte Instagram, mais il n'y avait pas cette volonté il n'y avait pas vraiment cette volonté pure de toucher un maximum de gens. Il y a toujours eu une volonté de se faire rencontrer les expériences, d'avoir une forme de message d'espoir, mais c'était pas la potentielle grande échelle d'un livre à ce moment-là. Par contre, après, quand la publication du livre s'est concrétisée, c'est dans mes corrections, c'est quelque chose que j'ai beaucoup en tête, l'idée que j'allais pas entièrement remanier le livre pour coller à une narration ou à une volonté de représentation spécifique, mais que par contre ça m'est resté en tête l'idée que si ça pouvait parler à des gens qui vivaient la même chose ou informer des gens qui vivaient pas la même chose, c'était très bien.
C'est très palpable d'ailleurs à travers le passage où tu t'adresses à ton toi de 13 ans et tu le rassures et tu lui dis il y aura un 18 ans,
et
il y aura un
20
ans.
Forcément, je pensais à
donc
tous les petits gamins trans qui allaient lire, en bref. Enfin, voilà, il y a aussi ce truc-là, c'est clair. Oui, il y a des moments où ça transparaît, même à des périodes où je ne savais pas que ça allait être publié, qu'il y avait quand même un truc de message d'espoir aux plus jeunes ou à des gens qui seraient sur mes pas 3 km derrière. Enfin, voilà, quelque chose de vouloir un peu baliser le terrain et partir en éclaireur quand même. Mais c'est des choses qui sont concrétisées encore plus avec les corrections et l'édition du bouquin quand même.
Et depuis justement la parution de ce livre, est-ce que tu as été contactée, est-ce que tu as eu des témoignages de personnes qui ont souhaité te rencontrer ou de jeunes enfants, de jeunes adolescents trans
J'en ai eu, ouais, c'était... C'est assez lunaire et en même temps c'était génial du coup parce que ça donne vraiment une saveur et une amplitude au bouquin que j'en suis très fier, mais voilà, c'est quand même des proportions auxquelles je m'attendais pas, qu'un ado trans puisse venir me voir et me dire que c'était son bouquin préféré, que ça lui avait sauvé la vie. Là j'ai dû m'asseoir 2 minutes quand même. Et en même temps c'est totalement ce que j'espérais, mais que ça se concrétise. Et vraiment c'était une pride et c'était vraiment un ado trans qui papillonnait autour du stand bouquin et je me reconnaissais dans cet ado. Et quand à la fin il m'a pris le bouquin et qu'il m'a envoyé un message après pour me dire comment le livre l'avait touché, ça m'a vraiment fait un moment un peu la boucle est bouclée quoi. C'était très puissant. Et même pas toujours des personnes trans, sur des questions aussi pareilles de troubles psy et même des trucs plus larges, de naviguer cette arrivée dans la vie d'adulte en fait.
Oui, bien sûr. Oui, parce
qu'il y a plein de gens qui ont été touchés aussi par l'atmosphère globale d'instabilité et de découverte du bouquin. Et ça m'a... dès qu'on me parle de ce livre, en vrai, ça fait un an qu'il est sorti, mais j'en reviens pas que les gens ils le lisent et qu'ils soient touchés et qu'il y ait des trucs vraiment concrets, qui viennent rencontrer leurs expériences et tout.
Ouais.
C'est toujours incroyable.
Alors, quand tu dis la boucle est bouclée, est-ce que tu penses que tu n'écriras plus du coup sur la transidentité ou que ça sera toujours un thème quand même qui reviendra ? Alors déjà, est-ce que tu as pour projet de continuer à écrire ? Est-ce que tu écris encore ? Est-ce que
j'ai écrit
des
encore
projets en cours ?
Un peu moins parce que j'ai repris des études entre-temps et ça pompe l'essentiel de mon temps et de mon énergie. Mais après, c'est des études d'art, donc ça reste lié. J'essaie d'écrire aussi pour les cours Un des grands axes sur lesquels je vais travailler à l'école, c'est de faire apparaître l'écriture dans un travail plastique. Donc voilà, je continue à écrire et j'ai quand même pour but de vivre de l'art et de l'écriture un jour. Donc voilà, ce n'est que le début. Mais forcément, je continuerai à écrire sur la transidentité, mais je pense pas de la même manière, dans le sens où même si ça reste un objet un peu hybride, le livre, je pense que c'était le plus scolaire que je sois capable de faire sur la transidentité, ce que j'ai fait là. C'est-à-dire qu'il y a quand même... c'est un gros sujet, j'explique certains trucs, ça prend une grande place. Et je pense qu'aussi avec les années, mon rapport à ma propre transidentité a beaucoup changé. Alors pas l'opposé polaire de ce qui est écrit dedans, mais ce livre, c'est la première année de découverte, d'intensité, de joie, d'enfin pouvoir s'affirmer. Et en fait, j'ai apporté énormément de nuances et de je sais pas, de petits trucs qui viennent faire de cette identité quelque chose de plus... peut-être plus compliqué, plus intime, voilà. Du coup, je pense que ça... si j'écris dessus, ça donnera pas la même chose, ce sera pas de la même manière, mais enfin, je pense que c'est impossible aussi que ça n'infuse pas dans mes textes, quoi qu'il arrive, en fait.
Ouais. Ouais, bien sûr. Et tu fais des études de...
Je suis au Beaux-Arts.
D'accord, ouais. Ok. Ça demande un peu de travail, effectivement.
Ouais. C'est... ouais.
Au Beaux-Arts de Rennes.
Ouais, au Beaux-Arts de Rennes. Ouais, ouais.
Ta ville de cœur.
Ouais. Nantes est pas loin derrière. le bouquin se focus beaucoup sur Rennes, mais le fait est que je jongle entre ces deux villes et que plus je suis aussi un peu en paix avec moi-même, plus j'ai de place pour d'autres lieux. Dans ce livre, Rennes, c'est la ville refuge, cabane, cachette. Plus ça va dans ma vie, plus globalement, je suis content d'aller à Paris, je suis content de revenir à Nantes.
Et donc peut-être aussi, parce que là c'est de l'autobiographie, enfin c'est, oui c'est de l'autobiographie, mais ouais. Est-ce que tu imagines un jour pouvoir écrire des fictions ou...
J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup, ça me paraît, c'est une des choses que j'ai le plus envie de faire et ça me paraît absolument impossible pour l'instant, c'est très intimidant, aussi parce que je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, mais j'ai trouvé une grande facilité dans l'autobiographie. Alors pas surtout parce que du coup ça touche à du personnel fort, en même temps il y a plein de trucs dans la fiction qui touchent au personnel aussi en fait et à l'intime, mais j'ai trouvé quelque chose d'assez évident dans le fait de faire de l'autobiographie et la fiction me fait très envie et m'intimide beaucoup, donc je me dis que mon plan d'action très flou c'est de passer par l'autofiction, des sortes de formes hybrides pour terminer à la fiction, mais voilà, encore une fois c'est ouais. Quand j'aurai le temps.
T'es très jeune donc tu devrais pouvoir trouver le temps, ouais. Émission Samouraï, on s'intéresse aussi à l'écriture en tant que travail, enfin l'exercice ouais. De production d'écrit et aux rituels. Et alors, est-ce que tu en as des rituels quand tu te mets au travail, quand tu te mets à écrire ou pas du tout? Ça vient comme ça, t'écris sur différents supports.
J'écris.
Ou est-ce que tu t'imposes des contraintes?
Une des principales problématiques du moment, peut-être pour moi, c'est justement de me mettre des contraintes, puisque j'ai beaucoup écrit avec ce truc de cocotte minute où tout est sorti comme une évidence. Et là, je me retrouve maintenant face au fait que le livre est sorti et que je veux en faire une carrière et que ça ne va pas toujours venir comme une évidence, en fait. C'est dommage, mais c'est vrai. Que si je veux que ce soit un travail, c'est que ça va être du travail. mais au moment, enfin, sur ces textes-là, c'était beaucoup de l'évidence. Ce que j'ai gardé de ce moment-là, c'est que j'écris beaucoup. J'écris juste sur les notes de mon téléphone, en fait. Vraiment,
d'accord.
J'ai une appli de notes, ce qui fait que j'écris beaucoup dehors. L'essentiel de ce livre a été écrit dans les transports en commun à Rennes, en fait. Je suis vraiment sur mon téléphone en train de pianoter. Et du coup, ce qui peut être un peu rituel, c'est que pour un peu officialiser la chose, quand je passe de texte à correction sérieuse finale, je passe à ordinateur. Souvent, j'écris avec de la musique... Et je corrige sans musique.
D'accord.
Voilà, ce truc de capturer le moment, puis d'avoir la tête à un autre endroit, peut-être moins stimulé pour pouvoir
plus
venir...
Plus disponible, pour être bien concentré sur la tâche.
Ouais, c'est ouais. Ça, ouais, ouais. Mais oui, j'écris beaucoup... en fait, j'écris beaucoup... Enfin, j'écrivais beaucoup dans l'instant. J'écris encore beaucoup dans l'instant, mais...
Dans la fulgurance,
ouais, vraiment. Excellent mot, pareil. Pour excellent mot, la fulgurance. Mais ce truc de retranscrire... alors, je parle beaucoup de souvenirs plus lointains aussi, mais de retranscrire presque immédiatement l'événement ou la pensée. Ce qui fait qu'à l'époque, voilà, y a plein de textes qui sont écrits vraiment dans le bus en quittant l'événement dont je parle. Et maintenant, quand j'ai des pensées, des fois, je me retrouve sur le périph' de Nantes avec la saisie vocale à faire. Alors, texte numéro 2, et à crier mon texte dans ma voiture parce que je ne veux pas le laisser partir. Ah ouais, quoi.
D'accord. Ça perd de sa saveur un peu.
À force de m'entendre crier mes textes dans ma voiture, et puis en plus ça enregistre parce que je. Enfin,
oui,
ça retranscrit pas bien, donc c'est tout un processus.
Ok, mais c'est important de savoir ça, tu vois, quand on est lecteur, c'est important.
Ben ouais. Non, mais en vrai, c'est pas toujours une évidence d'écrire, et moi j'ai un peu ce truc de chance et de malchance que ça a été une évidence, mais un truc. Genre une révélation divine dès le départ.
Une espèce de feu sacré.
Ouais.
Maintenant, il faut l'entretenir.
Et il faut l'entretenir.
Et comment on fait, mince ?
Bah ouais.
Si tu devais essayer de trouver un mot qui résumerait l'origine de ton projet d'écriture ou de ta vocation d'écrivain.
L'intensité. C'est un mot qui ressort énormément et, et je ne me fatigue pas de le, de le ressortir. Notamment ce bouquin-là, vraiment tout vient d'une sorte de pressurisation où ça sortait comme de l'air comprimé, il fallait que ça sorte, même si forcément ça implique de la correction et de la révision derrière. À la naissance de ces textes, il y a un besoin de traiter un trop-plein d'informations.
Une soupape, quoi.
Ouais, vraiment un truc de cocotte minute, quoi. Et que ce soit vraiment dans cet effet cocotte minute, puis dans la correction du texte, enfin que ce soit de l'événement vécu à la fin, il y a vraiment cette idée d'intensité qui reste, de vouloir retranscrire l'intensité du vécu tout en étant dans l'intensité de l'écriture et dans l'intensité de la vie. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'arrive mieux à doser maintenant, mais qui me quitte jamais quand même, cette idée de, dans mon écriture, vouloir potentiellement que le lecteur ait lui aussi l'impression d'être en train de faire du ping-pong, enfin en train d'être une balle rebondissante, quoi, en fait, de cette idée d'avoir de retranscrire vraiment le sensoriel, en fait.
Est associé à une chanson. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où t'es venue cette idée et puis comment tu les as sélectionnés ?
Il y a certains textes où c'était une évidence.
Ouais.
Où, dès que je les ai écrits, où je les avais écrits en écoutant cette chanson.
Voilà.
Les paroles et la musique font partie intégrante de l'inspiration du texte. Donc
ouais.
C'était acté que c'était ça. Mais même dans le manuscrit vraiment initial que j'ai envoyé à l'éditeur, il y avait des textes où je mentionnais les chansons ou qui étaient accompagnés de la note de chanson. Et du coup, l'éditeur a kiffé ça. Il m'a dit, si tu veux, on en associe une à chaque texte et ça devient vraiment un truc qui fait la forme du livre.
Alors, parmi toutes ces chansons, si tu devais en choisir une, si tu devais en associer une à ce projet, à ce livre, L'année du garçon, laquelle ce serait ?
Je pense que ce serait Drink Before the War de Sinéad O'Connor, si je prononce bien son nom.
Oui. Mieux que moi, je pense.
qui est une chanson incroyable, qui me met toujours dans un état assez étrange, très propice à l'écriture. C'est pas forcément une chanson joyeuse, mais c'est un peu une chanson de. C'est l'idée du dernier vers avant la guerre, d'une sorte de cri face à l'injustice dans cette chanson qui est très puissant, et en même temps il y a une sorte de lanson ambiant qui monte
progressivement comme ça.
Et je trouve que c'est une sorte de bon mix entre ce cri et cette ambiance et je trouve qu'il y a une dualité un peu comme ça dans le bouquin aussi, d'avoir globalement une sorte
De rage et de lâcher prise.
Ce truc de cri, de rage, de lâcher prise, de plein de moments où ça coupe et c'est violent. Et en même temps, à travers tout le bouquin, j'ai aussi l'impression de l'avoir énormément infusé avec cette sorte de...
De douceur.
De douceur. Et puis, j'ai l'impression que... Enfin, moi, je le vis, je le lis comme un truc où il y a vraiment une ambiance de fond, de cette vie à Rennes, de ce renouveau, de... J'ai l'impression qu'on perçoit un peu cette intensité du quotidien et en même temps qu'il y a des moments un peu de pic comme ça. Donc ce son, je trouve, irait très bien avec ce projet-là en particulier. Et juste, c'est un son qu'il faut écouter.
Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, puisque c'est sur cette musique qu'on va se quitter. C'est déjà la fin de Samouraï. Merci Léo Lio de nous avoir parlé de ton livre « L'année du garçon qui aborde la transidentité, mais qui apporte aussi beaucoup d'autres questions de transition plus largement, comme... le passage de la vie d'enfant à la vie d'adulte, le départ de chez ses parents, tout simplement l'entrée dans la vie.
Et... c'est ce qui rend ton récit assez universel dans certains thèmes.
C'est quelque chose qui me rend très content quand on me dit ça, parce que je suis toujours très heureux que des personnes trans ou des personnes borderline, ou enfin des gens qui peuvent s'identifier à ce dont je parle, soient touchés par le récit. Mais... j'apprécie énormément aussi quand des gens pas concernés par tout ou même quelques trucs dont je parle dans le livre me disent que le style leur a permis d'apprendre sur ces sujets-là. Une fois, à une signature, il y a une dame qui m'a dit qu'elle cherchait, enfin que ça fait longtemps qu'elle cherchait des récits de transidentité, mais que et qu'il y en avait beaucoup qui étaient très abécédaires, très comment dire, exhaustifs et scientifiques, mais qu'elle allait prendre mon bouquin parce qu'elle voulait de la poésie. Et là, ça m'a régalé. Je me suis dit, en effet, là, si je peux... si je peux avoir ce truc de cri du cœur et en même temps, pourquoi pas informer, mais que... Enfin, si je peux intéresser par autre chose que le biais pur de l'information sur la transidentité, c'est... un peu mon but quand même.
Pour autre chose que de la curiosité un peu parfois...
Oui, qui n'est pas toujours bien
bienveillante.
Quand elle est bienveillante, c'est très important de répondre à cette curiosité bienveillante. Et même des fois quand elle est pas malveillante mais mal placée, c'est bien d'y répondre aussi, parce que autant que les personnes trouvent les réponses chez nous que chez les gens qui ne veulent pas du bien. mais je suis très heureux... qui est un vrai intérêt littéraire pour le bouquin, et pas seulement ce truc de la représentation trans. J'aime quand même bien qu'il soit considéré comme objet artistique aussi, et pas seul objet de représentation.
Et ça l'est, merci beaucoup. C'est vraiment un récit magnifique que j'invite tout le monde à découvrir. Donc, L'année du garçon, c'est paru aux éditions de la Double Ponctuation.
Double Ponctuation.
Et voilà, c'est... écrit en toute sincérité par Léo Lio Goulding, et on attend tes prochains textes avec beaucoup d'impatience.
Merci
à très bientôt. À très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Yeah. your heart to run.